RMC.
Ce qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, plus moins que plus, la première situation au bout de deux minutes pour nous. Mais
RMC, Football Show.
Certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Moi, je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus.
Nicolas Villas.
Accompagné de Jonathan McCarty et d'Ali Benarbia cet après-midi.
On s'est botté là, c'était,
oui,
c'était mignon. C'était mignon.
Coupure,
jeune intermittent, soin du visage, c'est extraordinaire. C'est notre soirée entre filles du samedi.
Cet après-midi, il n'y a pas que des filles qui font des soins.
C'est vrai.
Tu vois,
raison.
Tu vois, tu peux pas t'en
mais
empêcher.
Non, mais
si, t'es dans les clichés, c'est dingue ça. Marseille qui bat Amiens 2-0, Monaco qui bat Nantes 1-0, on va y revenir dans quelques secondes. Et puis le carton de la soirée, c'est Angers qui a battu Nice 3-0. Alors Nice qui avec cette défaite est 7ème. Tiens, il y a Valérie qui nous a trouvé une stat. Sachez que c'est la 8ème fois depuis le début de la saison que Nice a au moins 70% de possession de balle. Et bah sur ces 8 fois, 0 victoire, 2 nuls, 6 défaites.
Mais j'ai une autre stat qui va expliquer pourquoi. C'est la 2ème plus mauvaise attaque de Ligue 1.
Vas-y.
Bah c'est la 2ème plus mauvaise attaque de Ligue 1, Nice. Okay. C'est une équipe qui est inoffensive dans la surface de réparation.
Et Patrick Vieira attendait un attaquant pour le mercato qu'il n'a pas eu.
Il y a ça, il y a Balotelli qui a pas mis du sien en première partie de saison. Là, t'avais Alain Saint-Maximin qui est leur principal pourvoyeur de but qui n'était pas là.
Alors c'est du coup compliqué. Fait des stats, la stat, c'est pas depuis le début de la saison, voilà, pour être
d'accord.
Voilà.
Et, okay. et c'est se rendre compte surtout qu'un joueur était important à Nice l'année dernière, c'était Pléa.
Eh oui.
Tiens, alors messieurs, on avait un Patrick Vieira vénère en conférence de presse. Pierre-Yves Leroux y était, et Pierre-Yves Leroux est maintenant dans l'after. Salut Pile.
Salut messieurs.
Salut Pile.
Il était vénère pour justement un sujet que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire l'absence d'Alan Saint-Maximin. Alors c'était une colère froide. C'est-à-dire qu'on lui a dit oui, et puis il y avait Alan Saint-Maximin qui était absent, en plus meilleur buteur, c'est quand même dommage. Et sa réponse a été toute simple, oui c'est dommage, surtout qu'il n'était pas malade. Et c'est lui qui a décidé qu'il était malade, sans l'avis du docteur, sans l'avis de l'entraîneur. Donc ce matin, il nous a prévenu que, bah, en gros, il faisait pas le déplacement. Donc, colère froide, parce que évidemment, ça prive quand même d'un élément offensif. Et dans ce que vous décriviez tout de suite, forcément, le tableau était un peu plus compliqué pour les Niçois pour venir ici essayer de marquer les buts.
Ouais.
Ah ouais, donc d'accord.
Donc, il se passe quelque chose avec notre ami Saint-Maximin?
Bah, semble-t-il, oui, puisqu'il décide qu'il est malade alors qu'il a pas de fièvre. Donc, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'est pas en période de mercato. C'est assez surprenant, quand même.
Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est assez curieux, ouais. Okay. Ok. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre, sinon, Patrick Vieira? Parce que bon, 3-0 à Angers, ça pique quand même un peu pour les Aiglons.
Oui, mais enfin, il a dit, comme Stéphane Moulin d'ailleurs, que c'était peut-être un peu sévère parce que les Angevins, ils ont 5 tirs cadrés. Ce soir, il y en a 3 qui vont au fond, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal dans les 20 derniers mètres à mettre l'équipe adverse en difficulté. Ça joue plutôt bien du côté niçois.
Ben oui, mais
le ballon circule, mais ils n'arrivent pas à les mettre au fond.
Effectivement.
Et puis
c'est ça, hein.
Ouais.
C'est le miroir inverse, c'est-à-dire que d'un côté t'as une équipe qui a été hyper réaliste, et de l'autre côté t'as une équipe qui joue à la baballe, mais qui a du mal dans la surface adverse.
Complètement. Et puis il y a un garçon ce soir qui était en grande difficulté, c'était Stas Valet, qui a été sorti à 25 minutes de la fin du temps réglementaire parce que les deux premiers minutes sont passés par là.
On t'entend plus, on t'entend
plus pile.
Qui arrive.
Ah, vous ne m'entendez plus. C'est bon là?
Ouais, c'est bon.
Non, je disais, il y a Christophe Jallet qui était en grande difficulté ce soir, qui a été sorti à 25 minutes de la fin du temps réglementaire parce que les deux premiers buts sont venus de son côté. Voilà, il était en difficulté, pas sur son bon pied. Et c'était une des difficultés aussi ce soir pour Nice.
Exactement.
Ça s'est passé beaucoup par ce côté-là.
Pierre-Yves, merci d'avoir été avec nous.
Ciao Pierre-Yves.
Bonne soirée Pierre-Yves.
Bonne soirée.
Voilà,
bon
merci
ciao,
pour Stéphane Moulin tout à l'heure.
Voilà, ouais,
il était très bon comme d'habitude, comme toi mon pile. À bientôt Pierre-Yves.
Salut
bon, bonne soirée.
Hein il est bonheur Pierre-Yves.
Ouais, mais franchement, ils sont tous bonheurs.
Le problème de cette équipe de Nice, c'est comme on dit, la possession et d'avoir un jeu léché, c'est que ça permet toujours à l'adversaire d'avoir le temps de se replacer. La force d'une équipe pour déséquilibrer un adversaire, c'est quand tu ne lui laisses pas le temps de se replacer. C'est bien de bien jouer à la baballe,
exactement.
Mais si tu n'as pas les joueurs vraiment de grande qualité, devant le but pour vraiment faire la différence.
Mais changer de rythme, des joueurs de rupture, c'est ça qu'amène Saint-Maximin. C'est
récupérer, récupérer le ballon quand l'adversaire a le ballon et aller vite.
En tout cas, d'après ce que nous dit Pierre-Yves Leroux, là, l'embrouille, du moins, l'incompréhension qu'il y a pour l'instant entre Saint-Maximin et Vieira. Enfin, il y avait eu le cas Balotelli, souvenez-vous déjà, où Vieira avait dû taper du poing sur la table. Finalement, il l'a laissé partir là cet hiver. Là, maintenant, Saint-Maximin, qui est quand même l'autre gros atout offensif de cette équipe de Nice, qui, tu le disais, a l'une des pires attaques de Ligue 1, c'est pas bon tout ça quand même. Hein.
Deuxième, c'est mauvaise.
Non, ce que je comprends pas, c'est qu'un joueur de lui-même dit je suis malade, je ne peux pas venir, alors que le docteur est là. C'est le docteur à la rigueur. Ouais. Et en général, un joueur, même moi, ça m'arrivait à avoir de la fièvre, je voulais jouer. Donc si lui dit je suis malade, je ne joue pas, alors que le docteur a dit qu'il pouvait jouer,
c'est bizarre.
Ça, c'est quand même un problème.
Mais toi-même, avec de la fièvre, t'enrhumais les autres, toi.
Non, c'est-à-dire que je faisais des bons matchs quand j'avais la fièvre. C'est assez bizarre, alors que tu te dis que tu vas être malade, pour te dire que le corps peut se dépasser.
C'est vrai. Les gars, autre affiche de ce samedi, Monaco qui a battu Nantes 1-0. Ouais.
Ouais. C'était pas mal. Moi, j'ai bien aimé l'enrhumé.
T'as aimé l'enrhumé? Oui. C'était sympa en plus. Gentil pour toi. victoire de Monaco 1-0 face à Nantes. Le buteur Gelson à la 12e. Alors on rappelle qu'avec ce résultat, Monaco n'est plus relégable. Monaco qui est maintenant 16e. Il compte 22 points les Monégasques. Ça leur fait 2 points d'avance sur Dijon qui est barragiste. Nantes est 14e avec 27 points. Vous aurez fait le calcul. Ils ont 5 points d'avance sur Monaco notamment. Ils ont 7 points d'avance du coup sur Dijon, les Canaries. T'as un petit déclat de Vaïd à la fin du match. C'est une période très difficile. Alors on rappelle que Palois... on rappelle que c'est pas vraiment le moment de vanner la on rappelle que Palois était absent parce qu'il était à l'enterrement d'Emiliano Sala en Argentine. Il est parti avec le secrétaire général du club. Vaïd qui a déclaré à la fin du match, c'est une période très difficile, mais il ne faut pas trouver d'excuses. Hier encore, il y avait de la tristesse, a-t-il déclaré. C'est vrai qu'on sent que cette période est difficile. Alors en plus, info d'ailleurs qui nous avait été révélée par Canal, l'avion de Nantes qui transportait les Canaries a eu un problème aussi pour se déplacer jusqu'à Nice à l'aéroport de Nice. Enfin en ce moment, enfin c'est
dingue
ce qui se passe en ce moment du côté de Nantes. C'est triste quoi.
C'est très triste. Bon déjà sans ça, ce qu'il a pu se passer avec Emiliano Sala, de savoir qu'il ne voulait pas partir, qu'il voulait rester, qu'il part et puis tout ce qui se passe en même temps. Là c'est pas du tout évident à digérer pour le club, pour le coach, pour les joueurs, pour la famille des joueurs aussi qui ont connu bien Emiliano Sala comme Palois. Et là, de reprendre une équipe qui est en train de jouer des matchs importants et de voir que tu as des défaites et que cette équipe ne se sent pas bien, je sais pas si c'est la fin de saison, comment va se dérouler avec cette équipe de Nantes-là.
Alors en plus, Vaïd a dit, c'était un match à 6 points. C'est vrai que Nantes a un petit matelas par rapport un petit confort par rapport aux équipes. Bah ouais, c'est ça le truc. Une sale série, ça peut aller très vite. Hein. Mm. Et en ce moment, ils ont qu'il les matchs aussi, avec les coupes, etc.
Et les matchs en retard, les matchs reportés, c'est pas du tout évident pour Nantes.
Tiens, accueillons Tony, supporter des Canaries, qui nous a appelé au 32-16. Salut Tony.
Bonsoir.
Salut Tony.
Bon, comment va Tony?
Ça va aller, c'est un peu compliqué parce que la fin de saison va être un peu longue. Hein. Là, ce soir, t'as pas de chance. Tu perds 1-0, mais c'était pas un grand Monaco. Ça valait un petit match nul. Et puis, ce qui est dérangeant, c'est qu'on sent qu'avec les problèmes qu'il y a eu, ça manque de quelque chose. Hein.
T'as l'impression, en fait, que depuis quelques temps, tous les matchs tournent en la défaveur de Nantes. Alors que ça pourrait très bien basculer de votre côté. Je pense par exemple au match contre Saint-Étienne. Je pense à ce soir où à la fin tu pousses et ça peut quand même faire un point. Et t'as l'impression qu'il y a une espèce de guigne. C'est même pas le bon mot guigne. C'est irrespectueux, Jean. Je m'en excuse. Le club est dans une sale spirale et t'as l'impression qu'il y a rien qui tourne rond. Et c'est vraiment ennuyeux.
J'attends que ça s'arrête en fait. Là, tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter parce que tu vois rien de bon. Hein.
Non, et le problème, t'as pas l'impression de trouver quelle va être la personne qui va un petit peu changer ou qui va prendre
ça doit être Vaïd. Ça doit être Vaïd.
Oh, il est pas seul, je pense qu'il y a.
Après, il faut des relais sur le terrain.
Bien sûr, mais je pense que les choses seraient pires s'il n'était pas là. Oui. Je pense qu'il, de par son charisme et son autorité naturelle, il maintient quand même côté sportif.
Et ce qui est d'ailleurs très normal, mais enfin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mec qui est profondément humain. Il est hyper marqué par ce qui s'est passé, à juste titre d'ailleurs. C'est lui le boss, c'est lui le taulier, c'est lui l'entraîneur, mais il accuse le coup, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, mais c'est vrai que ça joue aussi. Bien sûr, il l'est.
Est-ce qu'il faudrait pas qu'il soit marqué par ce qui se passe? Ça, c'est important. Qu'il arrive à le garder pour lui, mais qu'il arrive par contre à montrer autre chose aux joueurs pendant les matchs et tout, et le garder ça plus pour chez lui, ce qui n'est pas évident, pour pouvoir que les joueurs sortent de cette spirale et que le club sorte de cette spirale. Mais ce n'est pas évident, ça je le dis. Mais il a d'expérience, il a vécu même, je pense, beaucoup de choses dramatiques dans son pays qui sont encore plus horribles que ce qu'on a pu voir. Et je pense que s'il y a une personne qui peut récupérer ses joueurs, récupérer ce groupe-là, c'est bien lui.
Ouais, puis après, il y a un problème de niveau aussi, hein, parce que devant, il y aura...
C'est
y a
devant le problème. Je suis d'accord, Tony.
Oui, comme beaucoup d'équipes.
Hein. Ouais, vas-y, Tony.
Parce que Koulibaly, Eferi qui vient d'arriver, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Il est un peu en surpoids.
Il a joué une dizaine de matchs, en tout cas, avec la FIO.
Voilà, les Bombay, on nous a vendu Monts et Merveilles. C'est un flop. En fait, t'as Rongier au milieu et Touré qui tiennent la baraque et le reste devant, tu te demandes comment tu vas marquer un but. Hein.
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Et Emiliano Sala était l'arbre qui cachait la forêt du désert offensif désert offensif nantais. Mais écoute, moi, je pense que t'as quand même de la qualité dans ton effectif. Alors c'est vrai que devant, ça en manque cruellement. Mais tu les as cités au milieu de terrain, notamment Valentin Rongier. T'as quand même des joueurs. Je pense que Valentin Essérique aussi, quand il va se remettre, il va reprendre le rythme, il va pouvoir apporter beaucoup de choses à Nantes. Mais la situation n'est pas encore dramatique. Mais il faut que ça reprenne maintenant. Il faut que la chance rebascule du bon côté.
La chance, c'est que le bas de tableau, à mon avis...
Il y a beaucoup de concurrents pour la descente.
Voilà, c'est ça. T'as des équipes qui sont en plus grosse difficulté. Sinon, c'était l'année où tu allais tout droit avec la chance que t'as.
Ouais.
Mais ça va être long.
Mais sincèrement, non, je vois ce prochain match, Nantes, revenir.
Moi, les gars, je vous dis, il y a aussi un truc, et Veil l'a encore rappelé aujourd'hui.
Il y a la coupe, hein.
Exactement. Mais le fait qu'ils aient comme ça, cet enchaînement de matchs en peu de temps, les gars, ils ont pas un effectif de dingue, hein, les Nantais. Il va falloir jouer avec ça. Là, t'as Bordeaux, tu vas jouer Vitré en Coupe de France. Enfin, c'est en quart de finale, t'as quand même un coup à jouer, mais, ils ont rien à perdre, les mecs en face. Tu vas à Guingamp. Tu joues le PSG ensuite. Enfin, tu vois le calendrier de Nantes, il est pas si simple avec.
On est d'accord.
Ouais. Bah, après, si tu fais une finale de Coupe de France et un maintien avant la dernière journée, la saison est pas mauvaise. Hein.
Ouais, mais faut y aller en finale.
Par rapport à l'effectif.
Faut arrêter la spirale. Et en général, la spirale s'arrête par des matchs nuls d'abord, avant de retrouver.
Après, attends. Au niveau des résultats, si on regarde,
ils sont pas mauvais.
Non, il y a deux défaites, deux victoires sur les quatre derniers matchs. Il n'est pas non plus, voilà, complètement largué. Merci Tony d'avoir été avec nous.
C'est moi, bonne soirée.
Salut Tony.
Allez,
ciao Tony.
Ciao.
Tiens, on va parler du FC Nantes, les gars. Alors, le FC Nantes qui enchaîne une belle série également. Voilà, Nantes, on le disait. C'est l'AS Monaco, les mecs, qui sort de la zone rouge.
Jarding
qui est là. Voilà. Après le nul 2-2 face à Montpellier, après la victoire 2-1 face à Toulouse, Monaco qui enchaîne. Tiens, on va accueillir Cédric, supporter de l'ASM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Cédric.
Bonjour messieurs.
Salut Cédric.
Bon, ça y est, Monaco respire, Cédric là.
Enfin, ouais, comme vous dites en début de rubrique, l'essentiel ce soir, c'est les 3 points.
C'est un peu ça.
Honnêtement, oui, parce que il y a une bonne première période. Par contre, la deuxième, elle était très triste, très terne, et puis nous a rappelé les incertitudes qu'on avait ces derniers temps sur beaucoup de matchs. Mais bon, c'est vrai, c'est quand même un soulagement de sortir de cette zone. Et puis Jelson Martin encore, hein, qui nous sauve.
Deux buts, deux passes
Voilà, non, franchement, c'est vraiment le plaisir. Golovin aussi qui remonte la pente, je trouve, qui a fait un super match. Et puis après, ce qui est un petit peu pénible aussi, jouant en deuxième mi-temps, c'est Falcao. Alors Falcao, oui, on sait qu'il peut marquer un but, mais je le trouve fatigué, Falcao. Et des fois un petit peu trop perso, alors que maintenant,
c'est
ça y est, il a tout le monde autour de lui pour jouer.
C'est peut-être plus la fin que le début, hein, on va être d'accord là-dessus.
Je suis pas d'accord.
Remis les doigts de ce que je dis, mais...
Il donne beaucoup travail sans ballon, travail défensif. Il fait le pressing, il montre la voie, il est capitaine, ça fait beaucoup pour ton buteur.
Oui, mais quand t'es numéro 9,
il est passeur décisif aujourd'hui. Enfin, tu vois, il fait son match quand même.
Il est pas passeur décisif, que les autres.
Hein c'est Ronnie Lopez qui fait la passe.
C'est pas Falcao.
C'est l'avant-dernière passe. Il serait temps que les autres fassent le travail que font Falcao pour lui permettre lui de rester.
Moi je l'adore Falcao. Tout le monde l'adore Falcao, mais il commence un petit peu à être fatigué, il faut le dire. Voilà.
C'est normal qu'il soit un petit peu fatigué.
Mais n'empêche qu'il te fait du bien.
C'est là qu'il devrait le sortir à un moment donné, je pense, Jardim. Parce qu'il fait du bon boulot, je suis d'accord avec toi, Ali. Il fait du super boulot.
Il a pas eu un match entier dans les pattes.
Mais il a le droit de se reposer aussi. Bon, c'est le capitaine, c'est vrai, il est exemplaire de ce côté-là sur son, on va dire, son investissement. Mais voilà, il y a du monde sur le banc maintenant. Faut pas décourager aussi les joueurs qui sont arrivés. Il faut que tout le monde, on va avoir besoin de tout le monde jusqu'à la fin de la saison, je pense.
Tiens, juste un truc, Cédric, parce que depuis le retour de Jardine, on a l'impression quand même qu'il y a une vague d'optimisme du côté de Monaco. Beaucoup se disent que ça y est, le maintien est assuré. Tu partages, toi, ce point de vue?
Alors après, moi, il y a un match qui nous attend à Lyon dimanche. On pourra en dire un petit peu plus, mais l'optimisme, oui, on l'a parce qu'il y a des joueurs. On voit qu'il y a vraiment des joueurs. Il y a un banc beaucoup plus expérimenté, des joueurs sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Entre Golovin qui revient, Gelson Martins, Vinicius, qui a l'air intéressant. Oui, on est un petit peu plus optimiste. Mais quand on voit la deuxième mi-temps, on se dit que tout n'est pas joué non plus parce que on voit que notre défense centrale, elle est vraiment pas sûre à 100%. Glick, là, sur le dernier quart d'heure, il avait affaire à, je sais plus qui était attaquant de Nantes, qui était rapide. Et ben, on était inquiets, on serrait les fesses parce qu'on avait peur d'en prendre un encore.
Non, surtout que à chaque match.
On rappelle que d'ailleurs, Naldo était sur le banc, hein,
ce oui. Ouais. À chaque match, les 20 dernières minutes, à domicile, Monaco a la fâcheuse idée de vouloir absolument laisser le ballon à l'adversaire et reculer dans ses 30 derniers mètres. Et là, heureusement que Nantes n'est pas bien et qu'ils n'en profitent pas, parce que la plupart des équipes avant en profitaient un maximum, et ce qui est des grosses occasions.
Et il a raison, notre auditeur, hein, c'est le talon d'Achille de cette équipe, ça va être sa charnière. Parce que bon, Badiachi, il est plein de bonne volonté, mais ça reste un joueur qui est jeune. Et je trouve que parfois, il a des moments de déconcentration dans ses replacements, dans ses alignements qui pourraient avoir plus de conséquences. Pour l'instant, il a eu de la chance, mais notamment sur ce match-là, si tu regardes le match, tu verras deux, trois petites erreurs où si les Nantais jouent mieux le coup, il couvre un ou deux joueurs qui peuvent partir sur le but. Après, t'as pas non plus beaucoup de solutions. T'as Prinaldo qui a cumulé les rouges. Je sais pas, je vois pas trop comment résoudre ce problème de la charnière centrale à Monaco. Oui.
Naldo, les rouges, bon, il y a un rouge qu'il prend qui est très sévère. Mais moi, Naldo, j'ai trouvé rassurant sur les matchs où il est venu. En fait, c'est lui le joueur qui a été le plus important quand il a été arrivé.
Oui, c'est vrai.
Honnêtement, c'est mon avis.
Tu mettrais qui? Non, mais quand je te parle de solution, c'est quelle combinaison tu choisirais?
En plus, c'est difficile justement parce que Glick et Naldo, c'est un peu le même profil. Ouais, est-ce qu'ils sont capables de jouer ensemble? C'est difficile, après. Mais moi, il y a un joueur qui est revenu, il y a Endorap aussi qui est pas mauvais, qui peut apporter beaucoup.
Mais peut-être pas encore pour le maintien.
Mais voilà. Donc dans le contexte, avec la pression, je sais pas.
Est-ce que tu jouerais Naldo, Glick et remettrais Jemerson en 6 en voyant que quand même la paire Fabregas Silva fait beaucoup de bien au milieu de terrain?
Oui, mais après, c'est pas le côté parano, mais quand on voit justement Jemerson qui prend 4 matchs, alors je pense pas que ce soit pour le geste,
ça, par contre,
c'est pour les paroles, mais je trouve ça très 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 sévère.
Oui,
après, on va pas le voir tout de suite, 4 matchs, c'est presque un mois, hein, puisqu'on n'a plus qu'un seul match par semaine maintenant.
Mmh. Ouais, donc on va retrouver, je pense, une défense centrale, Naldo, Glick, dans pas longtemps, même si là,
était
sur le banc,
et
Silva Fabregas au milieu de terrain.
Très bien, Silva, d'ailleurs, hein, très bien.
Ouais,
bien.
On voit qu'il commence
à trouver
bien son poste dans cette équipe-là et à prendre les choses en main. Je l'ai vu bloquer les attaques adverses et repartir proprement.
Adrien,
Même avec le ballon.
Non, pas du tout. Je l'aime bien.
Il manque juste de rythme.
Alors, il manque de rythme, ouais, c'est ça.
Oui, ça
il a pas beaucoup joué à Leicester. Hein. Puel le faisait pas vraiment.
Ouais,
c'est un joueur simple. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre à des trucs de dingue. C'est encore plus simple que Moutinho. Moutinho, c'était pas un mec qui faisait beaucoup de dribbles, mais il était déjà pas plus fin techniquement. Ouais, c'est ça, ouais.
On le voit, c'est lui qui.
J'aime beaucoup, en tout cas.
Qui bloque, il récupère les ballons assez haut, et en même temps, il donne pratiquement tous les ballons à Fabregas. Ce qui est bien.
Cédric, merci d'avoir été avec nous.
Messieurs, j'avais juste une petite chose à vous dire, parce que je suis pas sûr, mais je me demande si je ne suis pas à l'origine de l'arrivée peut-être de Courbis à Caen. Je vous explique pourquoi, j'en ai pour 30 secondes.
Oh la vache.
Parce qu'il y a 6 jours, parce que j'habite en Normandie, hein, je suis supporter de Monaco depuis tout le temps, j'aime bien Caen aussi, et j'ai envoyé
en Normandie?
À L'Aigle. Dans le département de
Nord. C'est la ville de la mère de Adrien Silva, justement.
Oui, je sais. Et d'ailleurs, je vais aller les voir, parce que quand je vais aller à Monaco, je vais
aller
passer par ses parents pour avoir un maillot.
Non, mais c'est vrai.
Mais c'est vrai, je savais.
Alors, raconte-nous ton truc.
Et donc, en fait, là, j'ai envoyé un tweet au Stade Malherbe de Caen, il y a 6 jours, pour leur dire que Mercadal, c'était un bon entraîneur, mais qu'il était un petit peu trop vert pour le porter Caen sur ses épaules, et que si on voulait s'en sortir, il fallait contacter Courbis.
Allez, ressors-nous le tweet.
Eh ben, je l'ai envoyé dans la semaine, mais je peux vous l'envoyer tout de suite sur
RMC. Renvoie-le-moi.
Je te le renvoie. Et donc, je vois dans l'équipe hier, Courbis, en... alors peut-être que, voilà.
Voilà. Ça s'est fait, là.
Je pense
bravo.
Que
c'est
des boutons, hein. Prends 10,
bah, non, mais non, mais voilà, moi, Cédric, on va te mettre en contact avec Roland pour que tu prennes un petit truc, quand même, hein.
Ah non, mais moi, il m'invite à voir un match en, voilà, en VIP, ça me suffit largement.
Et de la sonnante et de la trébuchante, non, ça t'intéresse pas. T'es un homme de valeur, toi.
Non, j'ai pas besoin de ça. Ouais, je suis un mec d'honneur. Moi,
t'es déjà riche.
Moscato, pas besoin d'argent.
T'es déjà riche.
T'es riche dans son cœur.
Si tu peux nous m'envoyer par contre un petit calva, parce que en Normandie, c'est pas mal et tout.
Et ben, franchement, y a pas de
trou normand, mais.
Ouais, exactement.
Ben, si vous voulez, j'ai un monsieur et madame à vous faire, si vous avez 30 secondes.
Allez, vas-y.
Allez,
monsieur et madame Jeunet ont un fils.
Jeunet?
Ouais, celui-ci a un copain mexicain, comment s'appelle ce dernier?
Putain, je sais pas.
Vas-y.
Eh ben en fait, il s'appelle Ricoré, car c'est Ricoré l'ami du petit déjeuner.
Ah, allez, okay. Bonne soirée, Cédric.
Salut.
J'adore.
Salut.
Ah, c'est nul, putain.
Mais ouais, mais ça avait passé dans le journal moyen d'Adrien.
Le mec a tout calculé.
Bravo.
Il s'est cru sur Twitter encore. Merci,
bravo.
Cédric. Salut.
Allez,
merci, Cédric.
N'oublie pas de l'album.
Ciao. Il est bon, Cédric.
Il est très bon. Les tweets sur les blagues, on les prendra pas. Par contre, les tweets pour les transferts de Roland, ça, c'est bien.
Allez, dans quelques instants, on vous posera une question. Tiens, on vous posera cette question, d'ailleurs. On sera avec Fred Hermel aussi pour y répondre. Le foot français est-il trop confiant pour Lyon avant le match face au Barça? Vous aurez une petite guirlande de réaction d'entraîneur de Ligue 1. La question est posée sur Twitter. Il y a un sondage également sur le compte Twitter de l'After. Ça, vous allez voir. Il y a aussi une vague d'optimisme.
C'est super intéressant comme débat.
Ce match. Comment?
C'est intéressant.
Ouais, bah, vous allez voir. On aura des réactions. On écoutera Thomas Tourelle, Jean-Louis Gasset du côté de Saint-Etienne et Christophe Galtier, entre autres. On sait que Mbappé également avait eu des propos très élogieux, très rassurants, du moins, à l'égard de l'Olympique Lyonnais avant ce match face au Barça. On vous pose cette question. On vous attend pour y répondre avec Ali et avec Jonathan dans quelques instants.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Accompagné de Jonathan McCarthy et d'Ali Benarbia, 25e journée de Ligue 1, les matchs de ce samedi après-midi. Tout d'abord, Marseille qui bat Amiens 2-0, samedi soir ensuite, Monaco bat Nantes 1-0 et sort de la zone rouge. Angers qui cartonne 3-0 face à Nice. Ouais. Pierre-Yves Leroux nous le disait il y a quelques instants, sortie de Patrick Vieira en conférence de presse, alors qu'il a expliqué que si Alain Saint-Maximin n'était pas là.
Alan.
J'ai dit quoi?
Alain.
Ouais, mais c'est la version française.
Ouais, c'est.
Oh. Alan Saint-Maximin. Ouais, non, c'est pas mal. Il s'appelle Alan, on va l'appeler Alan.
Ok.
Il n'était pas au match aujourd'hui, alors officiellement parce qu'il était malade, sauf que Patrick Vieira a expliqué, qu'il s'était pas présenté chez le médecin, et que du coup, bah, il était malade parce qu'il avait décidé de lui-même. Voilà, pas content, okay. Patoche.
Écoute.
On peut le comprendre.
Bah non, mais bien sûr, mais on va voir quelle justification le joueur va envoyer. Et juste au passage.
Oui.
Rendez-vous ce soir sur RMC Sport Combat. Francis Ngannou, notre français,
ah oui,
poids lourd, qui va affronter le meilleur poids lourd de l'histoire du MMA, Ken Velasquez. Donc c'est à regarder.
Il est pas malade?
Non, je pense pas. Il est en pleine forme. Il s'est pesé, il est en pleine forme.
Okay. Tiens les gars, Yann Pécheral est avec nous également, puisqu'on était revenu notamment sur la victoire de Monaco 1-0 face à Nantes. Salut Yann.
Bonsoir messieurs, salut à tous.
Salut Yann.
Ça va très bien. Ouais.
Bon, ils étaient comment les Monégasques là en conf de presse là? Relax, Leonardo Jardine.
Voilà. Yann est malade.
Ah, voilà, merci beaucoup.
Lui aussi, il a fait une Saint-Maximin.
Bon, c'est pas grave.
Alors que Marseille va bien, Monaco va bien, donc il devra aller bien.
Ouais. Ouais, bah, ça va. On va peut-être le retrouver.
Peut-être nous dire, lui, pour Alan Saint-Maximin.
Ouais, bah, on va lui demander si on le retrouve, ouais. Yann. Si on arrive à nous reconnecter avec lui. J-3 avant Lyon-Barça, en 8e de finale de Ligue des Champions. Tiens, on va écouter Thomas Tourelle, Jean-Louis Gasset, qu'on l'embrasse également d'ailleurs. Jean-Louis Gasset et Christophe Galtier qui sont exprimés sur cette affiche. Alors, vous allez voir, ils sont très très confiants avant ce 8e de finale entre l'Olympique Lyonnais et le Barça. Les Lyonnais peuvent-ils le faire?
Oui, clairement, oui. C'est pour moi pas de question. C'est une équipe qui peut jouer dans un niveau très très haut. C'est super compliqué de jouer contre Lyon, et ils ont la qualité de comparer avec Barcelone. C'est pour moi, c'est absolument clair.
Lyon a réussi contre Manchester City, qui je pense est pas loin de Barcelone. Donc ils ont aussi la formule. Il faut faire des matchs de ce niveau-là, de ce type-là.
Lyon a battu Paris en championnat. Lyon a eu une double confrontation contre Manchester City exceptionnelle. Je le souhaite pour le football français, évidemment, je souhaite pour le football français que Lyon puisse battre Barcelone. C'est bien pour le football français, évidemment, c'est très bien pour Lyonnais et pour Bruno. Mais je suis convaincu qu'ils en ont la capacité.
Alors on vous pose donc cette question, le foot français finalement est-il trop optimiste? Est-il trop confiant avant ce match de Lyon face au Barça? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors il y avait eu Mbappé également qui avait eu des propos finalement assez rassurants on va dire avant cette double confrontation entre l'OL et le Barça en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous en pensez de ça justement?
Moi déjà, il faut qu'on arrête de se faire chaque fois d'un grand club, le Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Barcelone, Bayern de Munich, déjà avant la confrontation, de s'en faire un gros. Par contre, recevoir et mettre tous les atouts pour battre l'adversaire, ça je suis d'accord et c'est bien. Oui. Mais de trop en faire, parce que c'est un grand d'Europe... Moi, je suis pas pour. Surtout qu'au Barcelone, on l'a vu encore ce soir contre Valladolid. Bien sûr, c'est pas le Barcelone qui mettait 5-6-0 à tout le monde. Mais c'est le bon moment de les prendre. Et Lyon a les capacités d'embêter, je dis bien, pas d'écraser Barcelone, de les battre.
Oui, bien sûr,
mais d'embêter Barcelone à ce moment, écoute, ce qui peut-être ces deux dernières années n'était pas possible.
Moi, je pense qu'il y a un écart qui est quand même très important en termes de qualité, d'effectifs, d'histoire, de ce que tu vends des deux équipes. Mais j'apprécie cette approche. Pourquoi? Je trouve qu'on a eu tendance vraiment ces dernières années à trop se flageller, à trop se décourager, à jouer les matchs en les ayant déjà perdus au préalable dans la tête. Et ça, c'est le don de m'agacer. Et donc de là de voir un petit peu de panache, somme toute, tu vois, un petit peu de couille. Je suis désolé de le dire vulgairement, mais c'est ça, un petit peu de dire bah voilà, on va pas baisser notre froc et prendre la fessée cul nue aller-retour 3-0 comme nous et au Groupama Stadium. Je suis content de voir ça. Alors et d'autant plus que on a déploré les approches de Jean-Michel Aulas avant les matchs contre le Paris Saint-Germain. On est les prolos, c'est les bourgeois, machin. Je ne sais plus exactement quelle était la métaphore, comment il avait filé, mais c'était ridicule. Là, de voir que on a une équipe qui est conquérante, qui est sûre de ses forces, de voir que l'ensemble du paysage médiatique, enfin de l'ensemble du football français pousse derrière elle, parce que ça arrive pas souvent malheureusement quand c'est le Paris Saint-Germain qui polarise un petit peu, on n'a pas ce genre de discours, ce qui est dommageable et je le regrette. Mais là de voir que tout le monde est confiant, met des ondes positives derrière Lyon, et ben je trouve que c'est nouveau, et ben c'est rafraîchissant et alors, c'est comme ça qu'il faudrait prendre tous les matchs.
Là où je suis pas forcément d'accord avec toi, moi je trouve pas ça très nouveau finalement. Il y a un espèce de petit patriotisme ou du moins on défend sa Ligue 1 aussi quand on fait ça, c'est-à-dire on part du principe que bah oui Lyon peut le faire face au Barça, on a envie de défendre un peu les clubs français aussi quand on est entraîneur en Ligue 1.
Ils le disaient jamais ça, Nico.
Ah, ils l'ont déjà fait.
C'était pas si marqué, non, Nico, je trouve.
Bah, peut-être parce que le Barça est moins bien. Ouais.
Non.
Et surtout parce qu'il y a eu
peut-être aussi.
Il y a eu ces deux matchs face à City, d'ailleurs, on l'a entendu.
Exactement.
Hein. Voilà, il l'a dit, Gasset.
Non, et la victoire contre le PSG aussi.
Moi, ce que je reprochais un certain temps, c'est que les clubs français respectaient trop ces grands clubs. Et arrive un moment, ça se retournait contre eux. Et même l'arbitrage, automatiquement, quand tu vois une équipe comme Lyon, comme Paris, ou des fois respecter trop l'adversaire, ben ils se mettaient du côté des gros. Il faut que Lyon ne respecte pas Barcelone. Dans le sens où, avoir l'humilité, comme on dit, mais non, mais il faut qu'ils leur marchent dessus. Dans les duels, c'est des matchs de Champions League, encore plus que des matchs de Ligue 1.
Et ils ont montré vraiment voir les Lyonnais, capables de le faire en plus.
Les Lyonnais qui leur rentrent dedans. Qui les bouscule.
Alors Lyon qui a gagné dans la douleur hein, aussi hier hein, face à Guingamp, c'était pas un gros match. On rappelle que le Barça s'est imposé ce soir 1-0 face à Valladolid. Fred Hermel est de retour avec nous. T'es là mon Fredo?
Oui les amis.
Alors Fredo, t'as entendu là les réactions là de Tourol, Gasset et Galtier là dans cette guirlande merveilleusement bien montée par Jérôme Thomas. Qu'est-ce
Bravo,
que t'en
Jérôme.
Penses toi aussi? Est-ce que tu trouves que bah il y a un petit peu trop de confiance côté français là?
Non, c'est pas de la confiance, c'est du soutien.
Je le vois comme toi aussi moi mais.
Ouais, je pense que c'est du soutien. Alors ce qui est pas du tout le cas en Espagne. Alors je vais pas dire que c'est symptomatique d'un football qui au niveau des clubs ne domine pas l'Europe. Parce qu'en Espagne, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas de solidarité pour le Barça parce qu'il joue contre Lyon. De la même manière qu'il n'y avait pas de solidarité pour le Real d'autres clubs parce qu'il jouait.
Ouais, mais on n'a pas été solidaires, ils sont favoris tous les deux.
Ben voilà, c'est pour ça.
Là aussi, je vais ajouter quelque chose à ton analyse, c'est que Lyon, faut savoir une chose, c'est que Lyon, c'est un club qui n'est pas vraiment aimé des autres clubs. Donc, je pense pas que ce soit de la solidarité. Je pense que les trois entraîneurs sont très sincères. Lyon, c'est un peu un club qui est vu comme le club, de Jean-Michel Aulas, le club du pouvoir, le club qui pleurniche un peu, qui embête tout le monde.
Alors qu'en Espagne, c'est un club extrêmement respecté. Je l'ai dit
Lyon,
plein de fois.
Ouais, parce que Lyon, ils ont un vécu européen qui est quand même, remonte à quand même. Il y a eu des confrontations contre le Real où on se rappelle de l'élimination du Real Madrid avec Lisandro Lopez.
C'est nouveau. Respecté, ça veut pas dire d'un coup qu'on fait de Lyon à une équipe intéressante, très bonne. Ils sont juste respectés.
Alors après, il y a un truc, la performance face à City a quand même marqué, parce que c'est entraîné par quelqu'un qu'on
connaît. Ça a fait parler là-bas
qui s'appelle... Ah bah énormément, bien sûr. Mmh. Et une petite perle de piqué de ce soir aussi.
Vas-y.
Si nous jouons comme ça face à Lyon mardi, ça risque de se passer très mal pour nous. Voilà l'analyse que fait Piqué, qui est très réaliste sur le niveau actuel du Barça. Je pense que les Français voient aussi les matchs du Barça.
C'est coéquipier.
Oui, bien sûr. Ah, mais bien sûr. Mais parce qu'il fait un constat qui est pas génial. Donc je comprends que depuis la France, donc de mon côté, pour vous, de l'autre côté,
de l'autre côté des Pyrénées,
il y ait le sentiment que l'épouvantail du mois de décembre, bah là au mois de février, fait un petit peu moins peur. Je pense sincèrement, moi, que sur les deux matchs, parce que le match retour après, ça sera dans trois semaines, et voilà, c'est une équipe qui se refait la cerise régulièrement. Je pense que sur les deux matchs, Lyon a très peu de chances de passer.
Tu sais pourquoi, Fred?
Mardi, il y a vraiment. En tout cas, le fait de pouvoir entretenir l'espoir pour le match retour, ouais, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un huitième de finale qui va être réglé mardi.
Tu sais qu'est-ce qui va faire la différence dans ce match-là, Fred? C'est tout bête ce que je vais dire, hein, mais c'est l'expérience. Parce que Lyon, ça reste quand même une équipe plus pétrie de talent, mais ça reste quand même une équipe qui est jeune.
On disait pareil pour le City, même si c'était pas un match à élimination directe.
C'est pas pareil.
Je suis d'accord. Mais
c'est pas un match à élimination directe. Les matchs de Coupe d'Europe n'ont pas le même parfum que les matchs de poule.
Non, c'est que Barcelone a plus d'expérience que City. Ça, c'est une chose, un Champions League.
Ah oui, bien sûr. Un vécu.
Ouais, bien sûr. Une grosse expérience. Par contre, Lyon, c'est un peu de la folie.
Lyon, c'est inexpérimenté en Ligue 1.
Mais j'ai une question à vous poser, les amis.
Fredo.
Les Lyonnais, comment sont-ils physiquement? Parce que je pense que la clé du match, enfin l'une des clés du match peut être là.
C'est une équipe Fred, qui est capable de mettre une très forte intensité physique au pressing, est capable de tenir pendant 90 minutes, tu vois, d'agresser le porteur de la balle.
Il y a beaucoup de joueurs, Jonathan, qui sont en train de tirer, il y a les adducteurs un petit peu de partout, on le voit.
Qui?
Deneyer, Dombélé.
Ouais, mais Deneyer, bon,
j'ai ces deux joueurs importants.
Moi, écoute, Fred, je pense que c'est une équipe qui a montré dans les matchs de prestige que c'était une équipe qui était capable d'être très agressive. Après, faut pas se miser sur le match, le dernier match de Lyon qui a été gagné un peu à l'arrache contre Guingamp. Je pense que les joueurs avaient déjà la tête au match contre le Barça. Mais justement, ça peut être une équipe qui peut vraiment emmerder le Barça en termes de style.
À cause de ça.
Après, les gars, il y a aussi un truc, Fredo, pour un peu prolonger la réponse à ta question. Il y a aussi un match de coupe, hein, à venir pour les Lyonnais. C'est-à-dire le calendrier, il est peut-être il est pas peinard pour l'OL d'ici là aussi, hein. Tu vois, entre les deux matchs contre le Barça, ils vont devoir aussi faire tourner un petit peu.
Le Barça, ils ont quoi entre les deux?
Non, je regardais le calendrier du Barça.
Le Barça, mais c'est un truc de malade.
C'est un truc de dingue, ouais.
Ils vont à Séville, ils vont au Bernabéu deux fois dans la semaine.
Ouais. Rayo Vallecano ensuite, ouais.
Voilà, en coupe et en Liga. Donc, non, pour le Barça, c'est terrible aussi. Mais là, ne nous projetons pas trop loin. Regardons déjà simplement ce match avec le niveau physique du Barça de ces jours-ci. Je pense que des Lyonnais en forme, bien organisés et qui peuvent mettre le pied et la pression sur le Barça. Je ne suis pas sûr que le Barça puisse entrer dans un défi physique, technique, parce que si c'est que de la technique ce match, il est évident que le Barça est déjà qualifié. Mais si la question physique entre énormément en jeu dans cette rencontre, c'est-à-dire s'il y a un véritable avantage des Lyonnais face aux Barcelonais, eh ben je pense que Lyon peut faire quelque chose, parce que le Barça n'est pas bien physiquement.
Tiens, on va accueillir Samir, tiens, qui va répondre également à cette question. Est-ce que le foot français est trop confiant pour l'OL avant ce match face au Barça? Salut Samir, merci d'être avec nous.
Merci à vous l'équipe.
Salut Samir.
Très, très grand plaisir d'être avec Fred Hermel en même temps. C'est un très grand honneur pour moi. J'écoute tous les soirs la terre.
C'est un grand plaisir pour moi.
Ah, c'est un plaisir.
Il était payé en plus.
Là, il vient de gagner un t-shirt, là.
Le caca, tu es nul. Dédicacé par Fred Hermel.
Dédicacé, porté.
J'aurais préféré Cristiano, désolé. Cristiano, désolé, je suis cul de... Bref.
Ah, il n'y a pas ça. Ça, il n'y a pas cette connexion-là. Parce qu'il a... Et en fait, il est sorti de ma circonscription. Au moment où on a fait les t-shirts, il est sorti de ma circonscription. Donc, je n'ai plus autorité sur Cristiano Ronaldo.
Alors, sachez, Jérôme Thomas me l'apprend en direct. Hein, voilà, ça vient de tomber. Il y en a en cours de fabrication. Vinicius, qu'est-ce que tu es con?
Ah, ça, c'est pas mal.
Non, c'est pas exactement...
C'est qui les cons, ce Vinicius?
Mais qui... Voilà, un truc dans... Ouais, c'était comme ça. Mais c'était gentil.
Quel con, ce Vinicius, apparemment aussi. Voilà, j'ai vraiment me faire défoncer. J'ai dit trois fois une insulte. Ouais, vas-y, Samir.
Samir, alors, prénom de footballeur.
Je pense pas que c'est, en fait, c'est un truc qu'on connaît pas trop, en fait, maintenant en France et qui se fait de nouveau. C'est la solidarité des clubs français, parce que c'est pas très commun. Et comme m'a dit, monsieur Jonathan, à la base, Lyon, on n'est pas le club aimé, en France. On n'est pas Marseille, on n'est pas
des clubs. C'était un club aimé. Un peu polarisant du fait de la figure omniprésente de ton président.
Voilà. Après, mon président, moi, je le kiffe. C'est un des meilleurs présidents pour moi.
Quand France, c'est ton président, tu l'adores, c'est Jésus-Christ. Et quand c'est pas ton président, tu le détestes.
Ah non. Moi, je peux pas parler avec lui. Il a ramené Lyon en Ligue 2. Au jour d'aujourd'hui, rien à lui dire.
C'est ce que je te dis, ouais.
C'est donc voilà.
Quand tu vois le stade qu'il a fait faire.
Et puis il est attachant.
Le formidable outil.
Et après, personnellement, après, c'est pas, moi, je suis pas, voilà, on va pas se mentir, le Barça, c'est le Barça, et peut-être ils sont dans une régale de temps, comme dit monsieur Frédermel, mais après, c'est le Barça. Ils peuvent se réveiller à un moment ou à un autre. Faut pas oublier que nous, à Lyon, on n'a pas fait Kier. À ce qui paraît, je sais pas si c'est avéré, il y a pas Tanguy Ndombele d'ailleurs. Donc ça commence un peu à sentir mauvais quoi l'histoire.
Samir, tu penses vraiment que les supporters lyonnais pour ce match sont capables de jouer un rôle ou pas du tout?
Oui, bah quand même quand on voit comment ça pousse, ça crie.
Ouais, sauf que le Barça, ils en ont vu d'autres. Hein.
Oui, mais quand
après,
même, c'est
Barça,
important.
Oui, Barça, ils vont au Santiago Bernabéu, c'est autre chose. C'est le Classico, ils en ont, c'est un autre truc.
Ouais, mais je pense que, Samir, en fait, par rapport à ça, c'est vrai que le Barça a d'habitude des ambiances compliquées, mais je pense que c'est pas l'effet sur le Barça qui peut être dérangeant pour le Barça, c'est l'effet motivateur et pour les Lyonnais. C'est-à-dire que quand t'es dans un avec ton public qui te pousse, etc., tu te sens plus fort face à une immense équipe.
Après, c'est vrai que par rapport à ce que Samir dit, si Ndombele est là ou s'il est pas là, ça va faire une très 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 grosse différence. Ça peut changer la face de l'équipe.
De Neyar touché aux adducteurs et Ndombele qui lui est touché à la cheville, ils sont tous les deux incertains pour ce match. On remercie Samir qui nous a appelé, on accueille Yannick qui lui est supporter du Paris Saint-Germain et qui voulait réagir lui aussi. Salut Yannick.
Oui, salut Mister, j'espère que vous allez bien.
Ça va bien et toi?
Salut.
Ouais, très bien, très bien.
C'est moi, soirée là.
Celle-là, on me l'a
en plus, on est samedi soir. Hein.
Depuis mon enfance, on me l'a toujours fait celle-là.
Désolé.
Mais en fait, si tu veux, j'appelle pour pousser. Je sais pas si je peux dire un coup de gueule.
Mais si tu peux.
Ça fait un moment. Déjà, je suis très content de passer sur l'after. Franchement, c'est la première fois que je passe sur l'after. Ah. Vraiment, je suis super content. Et j'ai envie de pousser un petit coup de gueule parce que.
Un gros même, vas-y.
Un gros coup de gueule parce que ça fait un moment qu'on se flagelle, en fait, dans le championnat français. Qu'on fait que se flageller, voilà, on a le championnat le plus pourri du monde, on a le championnat de ceci, on a le championnat de cela. Mais en fait, je me dis quand même qu'on a le championnat de l'équipe championne du monde, quoi. Bon, après, c'est vrai, on n'est pas...
Un peu simpliste comme raisonnement.
Oui, c'est vrai. Mais je me dis, on est quand même... on a quand même nos qualités, on a nos forces, on a également notre...
Rappelle-moi qui était en finale de Coupe du Monde contre la France.
Voilà.
Oui, il y avait.
Ah non, mais ça veut rien dire, Yannick.
Ça veut rien dire, Yannick. Mais en revanche, là où tu as totalement raison, c'est de dire qu'on a une tendance très forte, prégnante à se flageller et que c'est insupportable. Et que là, pour une fois, tu attaques ce match-là.
Mais tu vas en venir où?
C'est cool.
Yannick, tu vas en venir où en fait? Vas-y.
Laissez le terme.
Vas-y, Yannick.
Là où je vais en venir, c'est que je me dis, beaucoup de choses se jouent en fait au niveau de la tête. C'est-à-dire que je dis pas de crier que Lyon va gagner forcément le match aller-retour contre le Barça, mais je me dis qu'il faut jamais partir perdant. Tu arrives avec ce que tu as, tu te bats avec tes armes, tu donnes tout ce que tu as sur le terrain, quitte à y laisser ton âme, quoi. Tu te bats sur le terrain, tu donnes tout ce que t'as. Et en fait, à chaque fois, on a tendance à dire oui, bon, dès qu'une équipe française va jouer contre une équipe espagnole ou anglaise, bah forcément, voilà, c'est bon, on a perdu
là,
d'avance.
Je suis d'accord avec toi.
Je me rappelle de l'équipe qui avait dit sur le match retour avant la remontada, oui, que genre Barça était gonflé à bloc et que c'est cela et que dans tous les cas, ils étaient tous en train de dire que Paris allait perdre, alors que Paris avait déjà gagné 4-0. Mmh. Après, je dis pas que...
Ouais, mais on a trouvé,
il n'avait pas forcément tort, ce coup-là. Ouais.
Pour le coup,
oui. Non, pour le coup, Fred, c'est vrai, ils n'avaient pas tort. Oui.
Moi, je suis en Espagne, je peux te dire qu'il y avait une ambiance de remontada à Barcelone. Ils étaient chauds comme des beaux, comme des coucous, hein. C'était une réalité. Voilà ce qui s'est passé.
Comme après Dermer,
en même temps, les mecs.
Non, mais on parle d'une chose, de savoir que tu gagnes 4-0 et que toute la France se dit, ça y est, Barcelone, allez hop, c'est éliminé, c'est rien. Mais on n'a pas eu ce sentiment-là, même en France. On s'est dit, aïe, 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 ça va être dur.
Mais parce que c'était le Barça,
exactement,
en face. Indépendamment du canard et tout, je comprends pas pourquoi, après avoir gagné 4-0 et que t'as peut-être la meilleure équipe du monde face à toi, de te dire, les gars, on va quand même faire attention. Justement, parce que tout le monde dit on a gagné 4-0, on peut le faire. T'as peut-être certaines personnes qui connaissent un peu le truc.
Non, mais surtout,
4-0 chez
vous,
toi,
non, ils sont pas passés.
Non, mais surtout, vous oubliez le contexte. Vous dites le contexte, après cette victoire 4-0, c'était les...
Bien sûr.
C'était les vidéos tournées avec... Il y avait Matuidi, Verratti,
le fameux dîner.
Exactement.
Tu vous rappelez de ça? Non, il y avait une surconfiance qui a été dramatique.
Non, c'est que t'avais quand même cette fameuse peur de dire que en France, pendant ces 20 dernières années, on nous a bourré le mou avec les gros clubs anglais, le Bayern, Barcelone, Real, dans le sens où c'est resté.
C'est pas le cas après le match contre Barça.
Ouais, peut-être un traumatisme aussi.
Non, c'est vrai, c'est resté que même s'il y a un Barcelone très moyen à Lyon, le fait que tu te mets en tête ça, ben ça se peut qu'encore Barcelone, sans faire un gros match, peut battre Lyon.
Ah, mais c'est bien sûr. Merci Yannick qui nous a appelé au 32-16. Fred, tu restes avec nous. On va évoquer l'Atlético qui a un gros match aussi, un gros huitième de finale de Ligue des Champions.
Ah, attendu,
c'est plus beau.
Je suis assez d'accord. Bah, extraordinaire. On l'évoque dans quelques instants avec Fred Hermel, avec Ali Benarbia, Jonathan Macardé, avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live, bien entendu. À tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Jonathan McCarty, d'Ali Benarbia et de Fred Hermel. Alors on a évoqué ce huitième de finale mardi à venir entre le Barça et l'Olympique Lyonnais. Ce sera d'ailleurs Olympique Lyonnais FC Barcelone. On rappelle que le Barça s'est imposé 1-0 face à Valladolid ce soir avec un but de Messi sur penalty. Messi qui a aussi raté un penalty. Il est comment d'ailleurs Messi en ce moment, Fredo? On sait qu'il n'était pas au top physiquement notamment.
C'était mieux ce soir. C'était mieux, mais c'est pas un Messi à 100%. Loin de là.
On le ressent.
On le ressent parce que il a fait deux trois petites courses à la Messi où c'est difficile de lui prendre le ballon, mais il s'est fait souvent choper la balle. Dans l'impact physique, il n'y est pas du tout. Donc voilà, c'est mieux qu'à Bilbao il y a une semaine, mais c'est pas encore ça.
Et alors mercredi,
le grand match,
huitième de finale, huitième de finale de Ligue des Champions que vous suivrez sur RMC Sport. L'affiche entre l'Atlético Madrid et la Juve. Alors l'Atlético qui s'est imposé petitement aussi d'ailleurs cet après-midi, 1-0 face au Rayo Vallecano. C'est Griezmann qui a marqué encore une fois, qui est rentré d'ailleurs un peu plus dans l'histoire de l'Atlético. Il a dépassé Torres au classement des buteurs de l'histoire du club. Cinquième meilleur buteur de l'Atlético, 130 buts pour le Français. C'est énorme.
C'est énorme. Et surtout.
Et Torres, quand on voit ce que représente Torres, qui était un type qui a porté l'Atlético à bout de bras, notamment en deuxième division. Hein, faut pas oublier que Torres apparaît en deuxième division. C'est lui qui permet à cette équipe de remonter. Et quand on voit ce que représente El Niño, c'est une légende. Donc c'est très beau ce que fait Antoine Griezmann. C'est très beau et c'est surtout très utile parce que l'Atlético a fait un match assiamment ignoble aujourd'hui. C'était moche. Vraiment, le Rayo aurait au moins mérité le match nul. Mais quand il y a Griezmann, ça s'arrange. C'est pas son plus beau but, c'est peut-être sûrement son plus laid. Une reprise du gauche en l'air qui rebondit sur le défenseur.
C'est cadré.
Il est là. Et puis il tente tout. Il est dans une année merveilleuse et tout ce qui touche, ça se transforme en quelque chose de.
On s'en rend pas compte en France de ça, Fred.
On se rend pas compte du niveau de Griezmann.
Parce que
quand on parlait de buteur à l'Atlético Madrid, moi j'aimerais surtout qu'on voit les buts qui te font gagner les matchs, parce que la plupart des buts qu'a marqué Griezmann, il y a eu beaucoup de 1-0 ou des 2-1.
Alors je vais te dire.
C'est énorme.
Alors je vais te dire, tu sais quel est le joueur qui, de toute la Ligue espagnole, a fait gagner le plus de points à son équipe?
C'est Griezmann.
Il a fait gagner à lui tout seul, en but, 13 points. C'est énorme, 13 points.
Ah bah oui.
Donc Griezmann est le deuxième, je crois que c'est Stuani avec 10 points avec Gérone. Mais Griezmann aujourd'hui, il est... incontournable.
Mais
Griezmann met les buts et d'autre côté Oblak les arrête. Donc
Fred, alors l'Atlético restait quand même sur deux défaites au Real et au Betis. Comment il l'appréhende là ce match face à la Juve et qu'elle en revanche elle écrase la Serie A, les mecs se baladent du côté de l'Italie là.
Oui, mais la Liga c'est pas la Serie A.
Ah ça on est d'accord. C'est pas Valladolid, c'est pas Gérone.
C'est difficile de comparer ça. C'est vrai que la Juve est largement favorite, mais bon l'Atlético c'est quand même une équipe qui a même pas le palmarès récent que la Juve, c'est-à-dire deux finales perdues en Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui est qui en plus a enregistré le retour d'un homme très important qui s'appelle Diego Costa, qui ne sera pas en capacité d'être titulaire, mais qui pourra jouer à un moment ou à un autre.
Il est rentré aujourd'hui en cours de jeu.
Il est rentré aujourd'hui, ouais, il a joué une demi-heure et
parce que Morata, je suis désolé, je comprends pas, moi, Morata. Enfin,
c'est... Non, mais c'est pas la peine de perdre du temps avec Morata, c'est un petit joueur. Et puis,
mais dis-moi, Fred.
Non, mais il a raison.
Non, mais c'est vrai, non, mais il faut. Enfin, tu vois, je comprends pas Simeone. Franchement, parce que.
Pour en revenir, Fred, à cette équipe d'Atlético, j'ai toujours pas l'impression d'avoir ce fameux Atlético qui fait peur, qui est costaud, qui est.
Bah, il est moins costaud, mais il est moins costaud que celui qui gagne la Liga, mais c'est plus beau quand même, tu vois. Mm-hmm. Il y a quand même plus de technique. Aujourd'hui, Thomas Lemar fait une belle entrée en deuxième période. J'ai beaucoup aimé. Il a tenté beaucoup de choses. Puis il y a quand même des joueurs fabuleux comme Rodri, il y a Saúl qui est revenu de blessure. Alors le doute autour de Lucas Hernandez qui s'est blessé à la cuisse l'autre jour. On ne sait toujours pas s'il va pouvoir être aligné face à la Juve. Et Lucas Hernandez, on a souvent discuté, c'est un magnifique défenseur central.
C'est le meilleur défenseur central français. On l'a dit plusieurs fois.
Ça fait un bon moment.
Même avant son équipe de France, j'ai toujours pensé que ça devait être lui qui devait être sélectionné, mais c'est une grosse tuile. Tu sais, j'ai vu le tweet passer de l'Atlético, mais ils ont pas annoncé de durée.
Non, c'est pas. Ben, j'ai croisé le président l'autre jour lors d'une réception. M'a dit qu'il espérait qu'il soit de retour quand même pour la Juve.
Okay.
Le match c'est mercredi, il reste encore quelques jours.
Ça va être voir important. Hein.
Ah bah ben oui, parce que dans l'impact pour prendre Ronaldo.
Comment il est, Simeone?
On rappelle qu'il vient de prolonger cette semaine. Hein.
Ouais, 24 millions net après impôts par an.
Mais ça c'est dingue, ouais.
Non mais tu t'imagines, il est même plus payé que Griezmann.
Ouais.
Mais je crois que c'est l'entraîneur.
Après, il y a une certaine logique à ce qu'un entraîneur soit très bien payé, je trouve.
C'est peut-être.
Non mais surtout lui, parce que l'Atlético c'est pas la même équipe depuis qu'il est arrivé en décembre 2011. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que sans lui, l'Atlético s'en serait pas là aujourd'hui. Ouais. Il est l'homme le plus important de l'Atlético de ces 10 dernières années. Hein,
ce qui est intéressant, c'est que dans le foot, on a déjà eu ce débat aussi, mais tu vois, la pyramide des salaires, elle est un peu inversée. C'est-à-dire, c'est les joueurs qui sont mieux payés que les cadres qui sont les entraîneurs. L'Atlético, finalement, ils ont une certaine logique dans ce qu'ils font avec Simeone.
Ouais.
Surtout avec le statut qu'il a. Voilà.
Mmh. Bah, il a tout ça, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui décide de tout. Mais ils ont raison, puisque ça marche.
Bah, bien sûr.
Donc là-dessus, et puis après, c'est l'Atlético.
Comment il est à ce moment, Fred? Simeone.
C'est-à-dire, il est pendant les matchs, il est insupportable, nerveux, il transpire.
Par rapport au résultat, le contenu du jeu, le résultat et les échéances qui arrivent.
Bien sûr.
Bah, il vit ça à 200, à 2000%. C'est une boule de neige.
Est-ce que tu le sens confiant, Fred?
Mais il est tout le temps confiant.
Il est tout le temps confiant.
Mais c'est un tueur, c'est un lutteur, il pense qu'il peut bouger les montagnes. Et c'est pour ça que l'Atlético joue parfois, va au-delà de ce que la qualité de l'ensemble de ses joueurs serait capable de faire. Mmh. Je veux dire, c'est quand même l'Atlético a éliminé le grand Barça en Ligue des Champions, a éliminé le grand Bayern de Guardiola en Ligue des Champions. Ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Donc, c'est pourquoi ceux qui pensent que l'Atlético est d'ores et déjà éliminé se trompent. Okay. Vous savez, le pari qu'on fait
ici. Personne n'a dit ça, hein, Fred, hein.
Non, mais bon, il y a quand même des gens qui disent, ouais, Ronaldo, bien sûr, Ronaldo, c'est un truc.
J'attends de voir la Juve.
Vas-y, pour finir, Fred.
Nous, alors, à l'Amicale Laïque, alors c'est le groupe des correspondants sportifs français ici, on s'aime beaucoup. On est tous, voilà, on parie que ça sera 0-0 à l'aller et 1-1 au retour. D'accord. En tout cas, si l'Atlético fait 0-0 mercredi, ils seront ravis et ils auront beaucoup de chances de passer en quart de finale.
Merci, Fredo.
Merci les amis.
Bonne nuit mon Fredo.
À demain.
Merci, bisous.
Ciao.
Quelques petites infos du jour. C'est que demain à 21h, il y a Saint-Étienne-Nantes, match que vous écouterez bien sûr sur RMC. Des news de Neymar qui nous viennent de Saber Desfarges. Le protocole de soins mis en place pour Neymar avance. Le Brésilien qui a effectué un dernier aller-retour hier entre Paris et Barcelone pour bénéficier de traitement sur son pied droit et accélérer le processus de soins. Alors la tendance, elle a l'optimisme quant à sa participation pour le match retour de Ligue des Champions face à Manchester United. Sachez que Choupo-Moting est malade pour le match de demain également, que Meunier est encore indisponible pour cette rencontre face à Saint-Etienne. Demain 15h, il y a Caen-Strasbourg. Coach Courbis s'était à Caen cet après-midi. Il a assisté à la séance d'entraînement qui a été menée par Fabien Mercadal. C'est un duo qui pourrait diriger le Stade Malherbe dans les prochains mois, les prochaines semaines. Alors c'est pas encore fait avec coach, car il y a ainsi, comme explique le président de Caen, Gilles Sergent. Pardon.
Alors le si il est simple, il y a assez de journalistes dans la salle qui peuvent comprendre qu'il y a un contrat entre RMC et Roland Courbis et que Roland Courbis respecte son entre guillemets son employeur, et donc en conséquence de cause, il faut qu'il traite ça. Aujourd'hui, c'est le point d'interrogation qui fait que Roland ne peut pas être en conférence de presse, en plus, bien sûr, de Fabien et de moi.
Voilà, alors c'est pas encore fait, c'est en bonne voie, c'est en cours de négo.
Je dis pas que c'est pas fait, mais je dis pas que c'est fait.
Non, ça veut dire qu'il peut travailler, mais qu'il peut pas être en conférence de presse.
Voilà, il y a un peu de ça. Non, il y a encore, vous l'aurez compris.
Il va poser des questions et en même temps de les...
Alors nous, bien sûr, on a contacté Roland, bien sûr, Roland Courbis. Bah lui, il kiffe le Stade Malherbe de Caen. Il dit même qu'il a toujours kiffé le Stade Malherbe de Caen.
C'est un club qui a toujours eu mon affection. Si j'ai la possibilité de leur donner un coup de main, je le fais très très volontiers. Et au plus on me dit que quand on n'a pas un effectif pour se sauver, au plus ça me donne envie de leur filer un coup de main. C'est vrai que bon, la préparation des matchs de haut niveau me manque. Et le fait d'avoir le challenge pour démontrer que je peux être encore utile pour un club de Ligue 1, eh ben ça me fera énormément plaisir, c'est tout.
Voilà, Caen qui est 19e avec 18 points, ils ont 3 points de retard sur Amiens qui est 17e hein, notamment. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu délicat ces situations. Hein. Roland qui pourrait être là, Fabien Mercadal qui pourrait rester en place lui aussi.
Bah, à la rigueur, c'est toujours une bonne chose pour Mercadal d'avoir quelqu'un d'expérience et un peu.
C'est ce qu'il a dit en conférence de presse d'ailleurs.
Comme Roland Courbis, sachant que Mercadal, je veux dire, n'a pas non plus une expérience énorme de la Ligue 1 et d'une équipe qui joue le maintien. Surtout qu'à Caen, il y a eu un changement total de
paradigme
du club.
Hein. Oui, avec le départ de Fortin, du président Fortin.
C'était
un changement de paradigme
total. Changement de président.
Du Monchi,
changement
du Calvados.
De leader de joueur, changement de supporter. Oh, ça fait beaucoup, changement de pelouse.
C'est génial cette formule. Hein. Ouais. Vincent Labrune, il était parfois des éclairs de génie dans sa com.
Ouais, tiens, autre information également, demain à 17h, il y a un match entre Reims et Rennes. Alors, c'est battu, rechute du côté du Stade Rennais, l'attaquant de 22 ans qui est sorti sur blessure face à Saint-Étienne et touché à la cuisse droite, il sera absent entre 6 et 8 semaines. Sa saison est peut-être terminée à Siabatcheu.
C'est dommage.
Ouais, il a vraiment une saison difficile à ce niveau-là.
Non, hein, c'est dommage parce qu'on aurait dit que Julien Stéphane avait trouvé son avance.
Ouais. Comment qui va mieux? Vous savez qu'il était sorti sur blessure hier, on en parle avec David Lorcolari. Alors ils ont passé un IRM, finalement tout va bien pour Kingsley Coman.
C'est une bonne chose.
Ouais, parce qu'on en avait peur pour lui.
Non, et puis on a envie de voir Coman dans l'équipe de France parce qu'on n'a pas pu le voir à 100%. Et puis là, le fait qu'il revienne au Bayern de Munich avec un doublé et une passe décisive, il est en train d'être un petit peu la nouvelle génération de joueurs de couloir du Bayern de Munich.
Les gars, merci. L'after est déjà fini. Merci à Jérôme Thomas. Merci aux équipes techniques qui nous ont aidés à préparer cette émission. Merci beaucoup, Jonathan McCarthy.
Merci, Nicolas.
Merci à toutes et à tous. Et puis, on vous dit à demain, bien sûr, avec notamment le match.
Nganou Velasquez.
RMC Sport Combat. Et le Paris Saint-Germain. Et puis, Nganou Velasquez.
Nganou Velasquez. Francis, c'est la France. C'est français, monsieur.
Lui.
Faut être derrière lui.
Allez, bisous.
RMC Football Show. L'after foot.